Aujourd'hui, Sound of Freedom sort dans les salles obscures. Le traitement médiatique de ce film en avait choqué plus d'un. Et pour cause, au lieu de parler du sujet de la traite d'enfants, les médias avaient préféré se concentrer sur l'entourage soi-disant complotiste de l'équipe de réalisation. Il est grand temps de parler du phénomène en pleine expansion que sont les traites humaines. Aujourd'hui, nous accueillons Maïté Lonne, auteure belge et ancienne victime d'un réseau de prostitution. Après avoir vécu une enfance particulièrement violente, ponctuée par des viols, des séjours en hôpitaux psychiatriques et une addiction à la drogue dure, Maïté décide à 20 ans de reprendre sa vie en main. Elle envoie des CV sur Facebook et obtient une proposition d'entretien qui n'en était pas un. Débute alors un enfer de 6 mois durant lesquels elle est forcée de vendre son corps. Dans son livre, Culture prostitutionnelle et pédocriminelle, elle raconte, à travers sa propre histoire mais aussi avec des témoignages d'autres victimes, à quoi ressemblent véritablement les réseaux prostitutionnels et pédocriminels. Attention, cette vidéo s'adresse à un public averti. La première question que je vais te poser, c'est par rapport à l'omerta médiatique. Dans ton livre, tu racontes, pour ton histoire personnelle, donc le proxénète de Facebook, que quand ils parlaient de ce réseau, ils ont réduit les centaines de victimes à une petite dizaine, qu'ils n'employaient pas les mots « viol », les mots « criminel ». Pourquoi, selon toi, en fait, il y a une telle omerta autour des réseaux de prostitution et surtout des réseaux pédocriminels ?
Je pense qu'il faut aller chercher des réponses dans plein de domaines différents, déjà par rapport à la formation des journalistes. J'ai voulu interviewer plusieurs journalistes dans le cadre de l'écriture de ce livre. Énormément ont refusé de me répondre parce qu'ils se sentaient accusés. Dans cette formation, je crois qu'on n'apprend pas à relater des faits d'un point de vue humain. Je veux dire, on retrouve toujours ce genre de choses dans la rubrique « faits divers », souvent sous le point de vue de l'agresseur. Donc déjà, il y a la façon dont les journalistes rédigent leurs titres qui a une influence sur le lecteur et qui se forge une opinion qui est souvent pas du tout la bonne. Je crois aussi que en Belgique, l'affaire Dutroux a très fort traumatisé la population. Je crois que c'est un peu pareil en France avec Outreau. Et du coup, dès qu'on revient sur ce genre de thématique, j'ai l'impression que ça réveille une espèce de traumatisme lié à ça, qui fait qu'on ne peut pas en parler. Je crois qu'il y a potentiellement des gens qui peuvent être complices aussi, qui ne veulent pas que ça se sache. Je crois qu'il y a des gens qui pensent que ce n'est pas concevable. On ne peut pas entendre ce genre de choses. Il n'est pas question de pouvoir fantasmer sur un enfant. C'est horrible. Je crois que c'est aussi une forme de protection. Comme j'en parlais tout à l'heure, on ne peut pas y croire, on ne peut pas voir ce genre de choses, c'est impensable. Et à côté de ça, on a aussi des personnes que l'on pourrait, je pense, vraiment qualifier de complotistes, qui se nourrissent d'une certaine vérité et qui la transforment pour l'amener autrement, et qui en font des espèces d'exagérations sans preuve. Et donc nous, avec les associations, quand on a des vrais dossiers, avec des véritables preuves et qu'on essaye d'en parler et de sensibiliser le public, le message ne passe plus. Parce qu'avant nous, il y a eu un message complètement réarrangé dans tous les sens qui discrédite tous les messages de la cause, en fait.
Est-ce que toi, on t'a déjà traité de complotiste ?
C'est déjà arrivé, oui. Mais le plus drôle, c'est que ça se passe souvent sur les réseaux sociaux. Alors que quand je prends la parole, par exemple, quand je fais un plaidoyer politique au Parlement, la moindre chose que je dis doit être sourcée. Elle est vérifiée. Je n'ai pas le droit d'inventer et de prendre n'importe quel article de Google écrit par n'importe qui sans source. Donc quand je dis quelque chose, je ne dis jamais quelque chose dont je ne suis pas sûr, pour lequel je n'ai pas de preuve. Donc ça me fait doucement rire que sur les réseaux sociaux, on puisse me traiter de complotiste, alors qu'au niveau politique, je suis écouté en permanence.
Ça me fait penser du coup à Sound of Freedom, où tous les médias parlaient de complotisme. Mmh. Est-ce que d'une certaine façon, ils ne sont pas en train de banaliser la pédophilie et la prostitution en traitant les légendes complotistes? Tu dis que tout ça est faux, donc tu es dans une négation de la réalité, parce que c'est une réalité.
Si, je crois que c'est encouragé, mais de façon inconsciente. Mais oui, il y a cet encouragement, et puis il y a aussi le fait que, comme les gens aiment bien les lynchages publics et relier des choses qui n'ont pas lieu de l'être, en fait, à partir du moment où ils se mettent à creuser et qu'ils voient un petit lien entre une personnalité potentiellement d'extrême droite, une personnalité potentiellement franc-maçonne et tous les complots qu'il y a autour de ces groupes. Je veux dire, c'est comme partout. Dans tous les groupements humains, il y a des bonnes et des mauvaises personnes ou des personnes qui commettent des actes regrettables. Et dès qu'on fait un lien, un tout petit lien avec ce genre de groupe, le message qui est en fait beaucoup plus important que le reste passe complètement à la trappe.
Dans ton livre, tu parles de banalisation des mouvements pro-prostitution, qu'on entend beaucoup. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai entendu une prostituée parler sur les réseaux sociaux, c'était pour dire mais moi, je veux qu'on légalise la prostitution, je suis pour la prostitution, je suis prostituée, je suis une travailleuse comme tout le monde. Toi, tu dis que ce mouvement-là, il pose problème car il banalise quelque chose qui n'est pas censé être banalisé.
À un moment donné, je ne sais plus si on peut toujours parler de libre arbitre. Donc je pense que oui, il y a évidemment des femmes qui font ce choix, mais quand on creuse un petit peu plus avec elles leur histoire, on se rend compte qu'il y a beaucoup de prédispositions à aller vers ce genre de pratique. Et je crois qu'on pourra dire qu'une femme est vraiment 100% libre de le faire à partir du moment où elle a un éventail de possibilités qui est énorme et qu'elle dit quand même c'est ça que je veux faire. Quand je parle de banalisation, en fait, c'est surtout auprès des jeunes filles. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes filles pensent que c'est de l'argent facile, pensent se diriger d'elles-mêmes vers ça alors qu'elles sont influencées par les réseaux sociaux, par des lover boys, donc des hommes qui sont prétendument amoureux et qui finalement les vendent. Mais je veux dire, en Belgique, la loi est simple. En dessous de 18 ans, il n'y a pas de prostitution. Donc si l'adolescente a 14 ans, c'est d'office considéré comme de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Donc le client, on peut aussi le poursuivre. Et ça, beaucoup de jeunes filles ne s'en rendent pas compte, en fait. Donc c'est tellement glamourisé, banalisé. Sur les réseaux sociaux, moi, c'est ça, en fait, qui me cause problème, que toutes les adolescentes s'y mettent en disant, bah, pourquoi pas? Et on se retrouve après avec des jeunes femmes qui sont aussi avec des troubles dissociatifs, qui sont complètement traumatisées et qui, quand elles en sortent, se rendent compte de ce qu'elles ont fait et de si ça leur convenait ou pas. Dans la prostitution, il y a plus ou moins 80% de victimes de traite ou de choix contraint, et 20% de femmes qui se déclarent vouloir le faire par choix. Donc tant qu'on traitera le sujet de la prostitution sans le sujet de la traite, et qui ne seront pas mis sur la table ensemble, en parallèle, en étant totalement indissociables, on n'arrivera jamais à avancer sur ce sujet.
Les réseaux de prostitution, ils sont intrinsèquement liés au réseau de pédophiles.
Énormément de choses sont liées ensemble. Par exemple, si on va en Belgique, il y a encore des vitrines dans certains quartiers. Là, récemment, la police a fait une énorme descente, plein de perquisitions, fermé plein de lieux, il y a eu beaucoup d'arrestations. Il y avait des mineurs de 14 ans dans les vitrines. Donc, effectivement, on ne peut pas parler de réseau pédophile, mais il y a quand même un mélange entre des jeunes filles qu'on fait passer pour des jeunes majeurs ou des jeunes majeurs qu'on rajeunit de plus en plus parce que les clients veulent des filles de plus en plus jeunes. Et à côté de ça, il y a des clients qui demandent à des prostituées pour avoir leurs filles, qui peuvent avoir 9 ans, 8 ans, 11 ans. Et il arrive aussi qu'on leur demande leur animal de compagnie pour un plan à 3. Donc c'est finalement tout ce qui est vivant est prostituable. Et susceptible d'être violenté ou vendu en réseau.
La zoophilie, t'en parles dans son nouveau livre. Est-ce que tu veux le présenter? Présenter déjà comment t'as fait ce travail?
Mais du coup, c'est maltraitance et sévices humains et animaux. Donc, quand j'ai écrit mon livre précédent, je me suis rendu compte que toutes les victimes me disaient oui. J'ai été victime d'inceste, et puis parfois il y avait un chien, mais il ne faut pas en parler. Et à force d'entendre ce genre de discours, je me suis dit, bah tiens, j'ai l'impression d'avoir loupé un morceau de mon sujet. Donc je me suis mise à faire énormément de recherches autour, et je me suis rendu compte que c'était l'omerta totale. Il n'y a absolument rien sur ce sujet. Donc j'ai été mise en contact avec Jenny Edwards, qui est une criminologue du FBI aux États-Unis, qui m'a fourni ses statistiques et son étude, qui est la seule et unique réalisée là-dessus, et qui m'a dit, mais oui, tout à fait, les enfants et les animaux sont une fois sur deux victime des mêmes prédateurs, et l'exploitation sexuelle des êtres humains est totalement liée avec celle des animaux.
Là, récemment, j'ai fait une étude sur le DSM-5, donc le manuel psychiatrique, la nouvelle version du manuel psychiatrique qui regroupe et classifie les troubles psychiatriques. Et ce manuel avait été énormément critiqué parce que le seuil des diagnostics était abaissé, ce qui fait que on avait beaucoup plus facilement certains troubles psychiatriques alors qu'on n'en était pas vraiment atteint. Toi, dans ton livre, tu parles d'un autre problème, c'est que avec cette nouvelle version du manuel, la pédophilie n'est plus considérée comme un réel trouble.
Et donc en Belgique, la criminologue Danielle Zucker m'expliquait qu'il y a plus de 500 paraphilies sexuelles et que toutes ne sont pas hors la loi ou déviantes. Et donc aujourd'hui, on parlerait plutôt plus de maladie psychiatrique, mais de paraphilie déviante interdite par la loi. Oui, c'est plus une maladie psychiatrique, mais une déviance sexuelle. Mais donc on a la sensation qu'on reconnaît finalement que c'est une orientation sexuelle déviante. Enfin, on en vient à une espèce de, je ne sais pas si on peut dire manipulation du langage, mais qui revient, on peut banaliser ça au même titre que le reste. Si on a une personne qui est, je ne sais pas moi, parce que finalement, le terme déviant indique tout ce qui est hors norme, dans le sens, quand il y a une sexualité qui est normée et acceptée dans une société, on dit que un mec qui est fétichiste des pieds, on va dire qu'il est hors norme et qu'il est déviant de cette norme. Mais il n'est pas hors la loi.
Il n'est pas malade non plus.
Il n'est pas malade. Mais donc, je trouve que tout ça est très très flou dans la façon dont c'est défini.
Donc là, on vient de dire que du coup, ça transforme la pédophilie en une sorte d'orientation sexuelle. Il y a même des mouvements aux États-Unis LGBTQP, du coup, c'est ça ? Qui défendent en fait
l'orientation pour pédosexuels, oui, qui défendent ça comme étant une orientation sexuelle minoritaire et opprimée qui sera décriminalisée au même titre que l'homosexualité.
Tu parles beaucoup d'hypersexualisation dans ton livre. Tu dis que c'est une cause plus qu'une conséquence, enfin c'est une cause de l'augmentation de la pédophilie, de la prostitution, enfin de ces réseaux-là. Et tu dis que l'hypersexualisation, elle est intrinsèquement liée au mouvement LGBT.
Je vais prendre un exemple de ce qui est en train de se passer en Belgique. En Belgique, on avait une association qui s'appelait Utsopi, qui était présidée par une dame qui était prostituée et qui aidait les autres femmes prostituées. Elle les aidait si elles avaient un souci dans leur vitrine ou si elles étaient victimes de traite, elle allait dénoncer au commissariat que c'était des victimes, donc la police arrêtait le réseau. Enfin voilà, c'est une femme qui a fait des choses incroyables pour les autres prostituées. Et en fait, il y avait un éventail de profils dans son association de femmes qu'elle entourait, qui était énorme. Et on a eu d'un seul coup une personne qui est venue de son équivalent français, qui est beaucoup plus trash et qui est portée par la communauté, qui est arrivée chez Utsopi et qui a complètement transformé l'association, qui aujourd'hui est devenue... je pense qu'il y a une énorme confusion entre l'exercice de la prostitution, qui n'est pas une orientation sexuelle. Et il y a aussi les pratiques sexuelles. Et il y a une telle confusion entre les trois qu'aujourd'hui, cette association qui confond les trois est devenue ouvertement BDSM, mais dans son sens très trash, confond des performances artistiques avec la prostitution. Et on se retrouve du coup avec des mères de famille qui sont prostituées et qui ont des enfants et dont l'entourage ne sait pas qu'elles se prostituent. Et en fait, elles sont toutes en train de quitter le navire parce que...
Mais ça, du coup, quel rapport avec
Mais c'est essentiellement la communauté LGBT qui... D'accord. C'est les associations LGBT dans laquelle la prostitution est pratiquement en fait une orientation sexuelle.
D'accord.
Ou une pratique sexuelle. ce qui n'est pas le cas.
La plupart des enfants victimes de traite connaissent leur agresseur, leur font confiance. C'est souvent, beaucoup trop souvent, un membre de la famille.
Dans 80% des cas, l'enfant connaissait son agresseur.
C'est très choquant, en fait, finalement, parce que on a tout ce mythe du kidnappeur en camionnette blanche. Enfin, moi, c'était une camionnette blanche. J'ai toujours eu très peur des camionnettes blanches. Mais en fait, non. C'est l'oncle, c'est la mère.
Mais les gens ne veulent pas se rendre compte que quand on pense à ces 80% d'enfants, on pense à de l'inceste. Mais il faut savoir que l'inceste n'exclut pas la présence d'un réseau. Je vais prendre l'exemple d'une victime française que j'ai rencontrée pour l'écriture de mon autre livre. Elle a été victime d'inceste par son frère et son père jusqu'à ses 11 ans, et à partir de 11 ans, elle a dû se prostituer. Et alors là, on n'est pas dans le réseau, c'est dans la famille, mais il y a plein d'enfants qui sont vendus dans des réseaux par leurs parents. Donc, c'est pas parce qu'on parle d'inceste que ça exclut automatiquement l'autre. Tout est lié, et à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, un réseau, en fait, se forme très, très, très facilement. Et puis, aujourd'hui, et surtout depuis le Covid, on parle énormément du live streaming. En fait, ce sont des prédateurs qui, puisqu'ils ne pouvaient plus se déplacer pendant le confinement, sont en contact avec des familles dans d'autres pays et qui disent, voilà, ta fille a 6 ans, je prends un quart d'heure et tu lui fais ce que je te demande. Et donc, c'est une agression par quelqu'un d'autre derrière un écran. Et toutes les associations sont au courant de ce phénomène depuis des années, mais c'est seulement pendant le confinement que ça a explosé dans toute la presse en France et en Belgique, parce qu'ils s'en sont rendus compte, parce que ça a explosé de partout.
Ça, c'est surtout sur le darknet ?
Non, pas du tout.
Pas du
Facebook, TikTok, tout ce qu'on veut.
Il y a ça sur Facebook ?
Ben, ce qu'il y a, c'est que si on prend, je sais pas, Zoom, Skype, tout ce qui permet de faire des visios n'est pas enregistré. Donc, une fois que la conversation est terminée, la preuve a disparu. Donc, pour les prédateurs, c'est génial. Donc, la police essaye de les traquer parce que, l'argent qui circule via leur carte de crédit, parce que ce sont toujours les mêmes montants dans certains pays et ce genre de choses. Mais la preuve en elle-même n'existe plus.
Donc, tu parlais de réseaux sociaux. Tu parles de TikTok dans ton livre et tu le compares à un mythique de pédophile.
Déjà, légalement, normalement, en dessous de 13 ans, on n'a pas de profil sur les réseaux sociaux, mais il y a des enfants de plus en plus jeunes, j'en ai même vu de 8 ans qui en ont, et qui parfois font des petites vidéos d'eux dans lesquelles ils se mettent en scène, en bougeant un petit peu. Et en fait, elles sont encouragées en live, dans les commentaires en dessous. On peut lire des positionne-toi comme ça, enlève ton haut, chiche que tu le feras pas, ce genre de choses. Et donc, finalement, le prédateur va pouvoir se défendre en disant, mais c'est elle qui a commencé. Et finalement, je n'ai fait que l'encourager un petit peu, mais c'est elle qui le fait, moi je ne fais rien. Et donc, elle se déshabille et puis ça part comme ça. Même sur les jeux vidéo en ligne, sur toutes les plateformes où on peut retrouver des enfants, il y a des prédateurs. Moi-même, j'ai déjà mis un faux profil d'enfant de 11 ans sur Facebook. Dans les premières 48 heures, j'étais à plus de 50 prédateurs en connexion avec moi. Ce qui est énorme.
Alors que tu n'avais pas mis de photo, si tu avais mis des
non,
photos.
Juste, non, juste la photo d'un enfant de 11 ans qui n'existe pas. Et en bio, je m'appelle un tel et j'ai 11 ans.
Et tu as eu combien de prédateurs ?
Une cinquantaine en moins de 48 heures.
C'est dingue.
C'est énorme.
Donc là, on parle des réseaux, on parle souvent de réseaux qui ne sont pas français, qui ne sont pas belges. Toi, tu dis qu'en fait, la taille des réseaux en Belgique et en France sont incroyables.
À partir du moment où on a un proxénète, un ou deux enfants et 3-4 acheteurs, on est déjà dans la naissance d'un réseau. Donc ça peut aller très très vite, en fait. Je veux dire, quand on voit un adulte se balader dans la rue avec un enfant dans la main, on ne se dit pas, bah, tiens, dans 5 minutes, il l'amène quelque part. On voit juste un adulte avec un enfant. Il faut quand même savoir qu'un enfant sur 5, et ce sont les chiffres officiels d'un rapport européen qui date de 2016 et qui a été dévoilé par Innocence en danger en 2020, un enfant sur 5 a été agressé sexuellement. En France et en Belgique, en Europe.
Un enfant sur 5
a été agressé. Un enfant sur 5, ça fait 4 enfants par classe de 20. C'est énorme.
Putain. Mais ça, on n'en parle jamais.
Non. Si Innocence en danger n'avait pas dévoilé ces chiffres-là en 2020, personne n'est au courant que ce rapport est sorti en 2016. Dans l'inconscient collectif, un enfant victime est un enfant qui pleure, qui est rempli de bleu. Non. Mais il va falloir à un moment donné former les corps enseignants à la détection.
Ça me permet de poser la question par rapport à l'éducation sexuelle dans les écoles. En quoi est-ce que ça pose problème l'éducation sexuelle et en quoi ça a un lien avec l'exploitation sexuelle des enfants ?
Alors, je sais qu'en France, ça fait un moment que ça existe, et en Belgique, ça vient d'arriver. Donc en Belgique, c'est une grosse polémique, on a le camp des pour et le camp des contre. Moi, je dirais que je me situe au milieu, dans le sens où je pense que c'est un sujet qui est important à amener à l'école, parce qu'il y a des enfants qui ont appris qu'ils se faisaient abuser et que ce n'était pas normal. Le problème que la majorité des associations de protection de l'enfance ont actuellement avec l'éducation sexuelle qui existe aujourd'hui, c'est que l'approche est hyper sexualisée. C'est-à-dire que, soi-disant, le prof est censé pouvoir répondre à des questionnements d'enfants. Mais si l'enfant est précoce et qu'il a été abusé, il va évidemment poser certaines questions et il faut pouvoir lui répondre. Mais est-ce que pour autant, il faut sensibiliser de la même façon tous les autres enfants de la classe qui ne sont pas précoces et qui ne sont pas abusés? Il y a une approche aussi qui est très dérangeante au niveau de la prostitution, du coup de l'exploitation sexuelle des mineurs. Moi, en Belgique, je vis dans les écoles et les personnes qui font l'éducation sexuelle parfois sont passées avant moi et ils disent à des filles de 11-12 ans que la prostitution, c'est OK à partir du moment où elle est consentante. Sans leur dire que dans la loi, en dessous de 18 ans, on ne se prostitue pas, et en dessous de 16 ans, on n'est pas consentante. Si on ne donne pas ces deux informations-là à la jeune, et qu'on ne lui dit pas, en fait, là, tu es victime d'exploitation sexuelle, elle ne peut pas agir en conséquence par après. Donc il y a une forme de glamourisation. Par exemple, pour le sexting, donc l'envoi de nude, ouais. On va dire à des filles de 11-12 ans, on ne va pas les prévenir que ça peut être dangereux, qu'il y a du harcèlement après à l'école, du harcèlement qui parfois peut virer au suicide de la jeune fille qui n'en peut plus. On va leur dire, bah, écoute, fais-le, si tu en as envie, si tu es consentante, et au pire, tu coupes ta tête sur la photo. Donc, en fait, c'est une approche un peu... J'entends souvent, on vit quand même dans une société hypersexuelle, autant armer les gosses et les faire évoluer dans la société telle qu'elle existe. Mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours adapter les enfants aux déviances de notre société, au lieu de remettre en cause et en question les adultes qui composent notre société? C'est pas aux enfants à s'adapter à ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est aux adultes à les protéger de ce qu'eux mettent en place.
Moi, il y a un truc qui me choque dans ce que tu me dis. Qu'est-ce que vient faire la prostitution dans des cours d'éducation sexuelle?
Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a une énorme confusion entre les pratiques, l'orientation et la prostitution. Et ils n'appellent même pas ça prostitution. Dans le guide, ils appellent ça relation sexuelle transactionnaire. Et entre parenthèses, en échange de services, de cadeaux ou d'argent. Donc c'est OK si la gamine est consentante. Apprendre le consentement aux jeunes, c'est capital. Mais leur dire que le consentement est la base de tout, qu'il a le droit de décider de tout, alors qu'il est quand même influencé par un adulte ou par la société, je trouve ça un petit peu dangereux et hypocrite. À la base, ce guide n'a pas été rédigé par des spécialistes de l'enfance. On a les plannings familiaux, les centres de reproduction assistée, plein d'associations pour adultes, des associations LGBT.
Qu'il y a plus.
Pardon. plein d'associations comme ça. Mais il n'y a pas eu, à la base de la rédaction de ce dossier, il n'y a pas eu de pédopsie, il n'y a pas eu aucun spécialiste de la petite enfance. Le discours doit être adapté à l'enfant.
Dans ton livre, tu parles aussi de jeunes femmes et de jeunes filles qui arrivent dans les pays occidentaux perdues, en gros, dans les flux migratoires.
On a toujours cette image de bateaux et de personnes migrantes qui viennent par la mer. Mais il faut savoir qu'il y a des femmes qui viennent simplement par avion. Je prends souvent l'exemple des femmes qui viennent de Benin City, au Nigeria. À partir du moment où elles ont une madame, ils appellent ça comme ça là-bas, mais c'est une proxénète, qui fait croire à la famille qu'elle a du travail, qu'elle va ouvrir un salon de coiffure à Bruxelles ou en Espagne ou en France, ils obtiennent des faux papiers béninois, donc ils peuvent prendre l'avion. Et une fois, elle doit faire la cérémonie du joujou. Donc c'est un prêtre vaudou qui fait cette cérémonie et elle doit prêter allégeance à... Enfin, voilà, c'est... En gros, elle doit promettre de rembourser une somme énorme pour son voyage, ce qui justifie l'avion. Une somme qui est 10 fois plus élevée que ce qu'il en est réellement. Et puis elle arrive... en Belgique, et elle est mise directement en vitrine avec confiscation des papiers et ce genre de choses. Donc non, effectivement, toutes les femmes ne viennent pas en bateau. Et puis celles qui viennent parfois mettent 2 ans à arriver et sur la route se font violer, agresser et puis mises en vitrine dès qu'elles arrivent. Parfois elles sont mineures quand elles quittent leur pays et elles deviennent majeures en arrivant ici. Et ce qui est très problématique, c'est... nous, on n'a pas du tout été élevés dans les pratiques vaudou, donc on n'y croit pas. Et quand on essaye de les sortir des réseaux, elles refusent catégoriquement de le faire parce qu'elles ont peur du joujou qui pourra aller tuer leur famille au pays ou les tuer ici en Belgique. Et donc, on a une approche qui est assez catastrophique de ce phénomène-là parce qu'on est perdu face à ces croyances. Et puis, la brigade traite des êtres humains ne peut jamais intervenir directement. En fait, dès qu'un réseau se fait arrêter et retirer d'une vitrine, ça fait un appel d'air et un nouveau réseau qui s'installe. Et du coup, la police doit enquêter pendant 1 ou 2 ans, voire plus, parce qu'ils sont sous-effectifs. Parfois, ils sont 3. 3 policiers sur des dossiers incroyables et énormes de réseaux. Et en fait, ils doivent d'abord accumuler toutes les preuves, faire toutes les écoutes téléphoniques, savoir qui fait quoi et quand, etc. Et ensuite intervenir et espérer retirer les victimes du réseau. Une victime de traite, et j'ai la même chose puisque la police est venue me chercher, n'ira jamais d'elle-même au commissariat pour dénoncer ces faits. Jamais.
Parce que la peur que...
Parce que déjà, elle ne se sent pas victime de quoi que ce soit.
D'accord.
Elle vit enfermée en vase clos. Elle a trop peur d'être arrêtée ou d'être tuée. Il y a de réelles menaces qui pèsent sur elle et sur sa famille. Donc, quand j'ai eu la même chose, quand je suis arrivée au commissariat, ils m'ont posé des questions, j'ai tout nié en bloc, et ils m'ont sorti le dossier sur le bureau. Et en fait, ils avaient déjà tout. La seule chose dont ils avaient besoin, c'était ma signature. Et là, je suis tombée de ma chaise parce que tout était déjà devant. J'avais rien à expliquer, en fait. Quand on sait qu'une victime de... quand je dis un viol simple, je parle d'un viol unique. Hein. Quand une femme se fait violer une fois, elle peut... Je ne sais plus en France, c'est 10, 20, 30 ans, ou je ne sais plus s'il n'y a plus de prescription. Mais elle a des années pour porter plainte. Une victime de traite se fait potentiellement violer 10 fois par jour. Fois le nombre de jours... Enfin, où elle est dans ce réseau. Et en Belgique, si elle veut bénéficier d'une protection et d'une aide et intégrer le programme de protection aux victimes de traite, les mineurs ont 3 mois et les majeurs 40 jours. On n'a même pas le temps de réaliser ce qui nous est arrivé. Je veux dire, moi, ça fait plus de 10 ans et j'ai encore des troubles et des problèmes aujourd'hui et des nouveaux souvenirs qui arrivent. Donc après 40 jours, c'est inconcevable. Ce genre de choses. Et puis, les conditions pour entrer dedans, c'est porter plainte contre le réseau, donc risque de menace de mort. Être reconnue victime par la justice, qui est très rare. Couper contact avec le réseau. Parfois, les femmes sont sous emprise et ont tellement peur que finalement, elles retournent dedans par elles-mêmes. Donc voilà, c'est plein de conditions qui sont hallucinantes, qui sont très loin des réalités de terrain. Je ne connais pas celle pour la France. Mais non, on est vraiment à une époque où c'est une thématique qui est énorme et on n'en fait rien.
Tu parlais de madame tout à l'heure.
Oui, des mamas et des madames.
faut savoir que 39% des Macs sont des maquerelles. Mmh. Et ça, on s'en doute pas une seule seconde. Mmh. Que des femmes soient en fait le bourreau d'une autre femme.
Dans les réseaux nigériens, par exemple, c'est toujours des femmes. Mais il y a parfois, c'est souvent des femmes qui elles-mêmes ont fait ça à un moment donné. Et c'est le moment où elles peuvent gravir un échelon et devenir patronne des autres. Mais il faut savoir aussi que c'est plus facile de passer via une femme, quitte à ce qu'il y ait encore un homme au-dessus, parce qu'une femme peut beaucoup plus facilement rassurer et manipuler une autre femme. À partir du moment où la Mac gomme complètement de son vocabulaire certains mots, elle transforme la réalité et la personne ne se rend plus compte de ça. Moi, je n'ai pas eu affaire à une femme directement, mais dans mon affaire, il y a eu ce David-là. C'était caché derrière un profil Facebook féminin, donc Elena, qui était alimenté avec des photos, avec plein de choses, donc, qui était quand même crédible à l'extérieur. Et il parlait, donc Elena parlait régulièrement aux victimes, en se faisant elle aussi passer pour une victime, comme si on formait un groupe. Et donc il y a beaucoup de manipulations qui est passée, ou de menaces déguisées qui sont passées, via une femme. Et du coup, c'est pas du tout passé de la même façon que si ça venait d'un homme.
Et parce que cette femme, tu t'es confiée à elle ?
Oui. Puisqu'elle me décrivait en fait une scène similaire à la mienne, en me disant qu'elle était victime aussi du même homme, qu'elle avait vécu la même chose, enfin, voilà, il y a une sorte de confidence mutuelle qui s'est installée sur un réseau, un profil qui était comme le mien, alimenté de la même façon. Il n'y avait aucune raison de croire qu'elle n'existait pas. Et elle a fait ça avec toutes les victimes, et il y en avait beaucoup.
Alors que c'était l'agresseur, quoi.
Ce qui a été une circonstance atténuante pendant le procès, parce que ça indiquait qu'il avait entièrement conscience de la douleur qu'il infligeait aux victimes.
D'accord.
Puisqu'il était capable de la décrire, en se mettant dans la peau d'une victime. Enfin voilà, il y a vraiment un truc presque maternel qui peut s'installer si la femme est plus âgée aussi. C'est, voilà, oui. Ça m'étonne pas du tout, moi, en fait. Ouais, et même dans la pédophilie, on s'en rend pas compte, que ce soit dans l'inceste, que ce soit dans les réseaux pédos, il y a entre 30 et 40% de femmes qui sont pédos, mais on ne les attrape pas et on n'en parle pas parce que ce ne sont pas des prédateurs qui chassent les enfants des autres, mais elles ont plutôt tendance à abuser de leurs enfants en situation de soins, pendant le change, pendant le bain, au lit, etc.
D'accord.
Donc c'est pas des mamans qui vont aller enlever un autre enfant à la sortie d'une école, c'est elles sont pédos sur leurs enfants. Donc c'est la majorité du temps, ce sont des mamans incestueuses. Mais elles existent bel et bien.
Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense.
Oui, beaucoup.
Dans ton livre, tu recueilles des témoignages. Mmh. Et il y a le témoignage d'une fille qui, grâce, pour cette fois-ci, à l'éducation sexuelle, qui a appris que ce qu'elle vivait, c'était pas normal, qui a porté plainte. Et le procès a eu lieu 5 ans après. Donc 5 ans pendant lesquels elle a continué à se faire agresser, à se faire violer. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une prise... prise en main d'urgence, en fait, concernant ces cas-là, concernant les cas de petites filles qui portent plainte, plutôt que de la laisser retourner vivre chez elles, en fait.
Oui. Le témoignage dont tu parles date des années 90. Donc, ça m'étonne pas pour l'époque. Mais aujourd'hui, on est face à un autre phénomène qui rejoint un peu ça. Je sais pas si tu as entendu parler des cas des parents protecteurs.
Non.
Donc là, on est soit dans l'inceste, soit dans les réseaux. Ça dépend encore une fois du contexte et de ce qui se passe avec les victimes. Mais en gros, ça peut être une maman qui découvre que le papa abuse de la petite fille de 4 ans. Du coup, complètement affolée et en découvrant ça, elle va chez le médecin de famille faire constater. C'est très rare qu'on trouve quelque chose, mais si on trouve, admettons, le médecin de famille va faire une attestation. Elle va courir à la police avec cette attestation, en voulant porter plainte et en disant qu'elle se sépare du papa et en apportant l'attestation. L'attestation va être jetée à la poubelle puisque ce n'est pas un expert judiciaire nommé par le parquet. La situation va se retourner contre la maman puisqu'on va dire que parce qu'elle se sépare, elle accuse le papa pour avoir la garde. Et l'enfant ne va pas nécessairement être expertisé ou entendu par manque de moyens. Il n'y a qu'un enfant sur 10 qui se fait expertiser. Et s'il se fait expertiser, c'est plus d'un an après, quand il n'y a plus rien. Donc, les mamans, finalement, voient une situation se retourner contre elles. Elles deviennent complètement désespérées et ça passe pour une forme d'hystérie. Du coup, on leur retire la garde et on va donner la garde au papa, qui pourra continuer à agresser l'enfant ou à le vendre s'il y a une affaire de réseau.
Il y a plusieurs cas.
Et donc ça s'appelle le cas des parents protecteurs. Et c'est un fléau en France et en Belgique. Il y en a énormément. Si tu vas sur le site d'Innocence en danger, tu verras le nombre de cas. Ils s'occupent presque plus que de ça maintenant. C'est hallucinant. Donc on en est à un point où on ne sait même pas s'il faut encore conseiller à quelqu'un d'aller porter plainte.
Du coup, pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant ? C'est quoi la solution à ça ?
Déjà, je pense qu'il faut commencer à croire la parole des enfants. Je sais que quand un enfant explique certaines choses qu'il a pu voir ou qu'on a pu lui faire, on a tendance à ne pas le croire. On a tendance à se dire « mais non, c'est pas possible, il a vu un dessin animé, il déconne ». Mais il faut savoir que même si un enfant part dans des histoires qui ont l'air complètement dingues, ça part d'une vérité, de quelque chose qu'il a pu vivre ou subir, qui sublime et qui transforme dans un discours qui devient un peu différent parce que c'est sa façon de se protéger, lui. Donc, écouter ses enfants, parler avec ses enfants. Il y a parfois des petits livres de sensibilisation qui sont vraiment adaptés à leur âge, qui permettent de pouvoir introduire certains sujets. Moi, je le fais énormément avec mon fils qui a 6 ans. On prend ces petites histoires, on en parle à travers un personnage qui n'est pas lui, donc je ne suis pas frontale avec lui, mais on en parle. Et donc, je l'arme petit à petit, mais doucement, pour pas le traumatiser non plus. Et je veux dire, ça fait à peine plus de 30 ans que les enfants ont des droits et qu'ils ne sont pas, ils sont plus considérés comme étant des objets par la loi. En tout cas, depuis 1989. Et je crois qu'on est encore dans une époque où on n'accepte pas encore totalement ça. Parce que finalement, donner des droits aux enfants, c'est réduire le pouvoir des adultes. Et ça, ça a l'air encore très difficile et compliqué à accepter. Et il y a des lois qui existent et qui ne sont pas appliquées. Il y a des lois qui devraient être rajoutées, modifiées, d'autres lois qui se contredisent, qui se superposent, qui n'ont aucune logique et qui sont faites par des personnes qui ne sont pas sur le terrain, qui ne consultent pas les personnes qui sont réellement sur le terrain. On cesse aussi de banaliser la pédophilie, la pornographie. Je ne dis pas qu'elle doit exister ou qu'elle ne doit pas exister, mais elle est visible partout. Les enfants voient ça tout le temps. Donc, finalement, ils en viennent à s'hypersexualiser eux-mêmes et donc à tomber sur des prédateurs et à appeler ça à eux. On est responsable de ces enfants, de ce qu'on leur fait voir, de la société qu'on leur laisse. Donc, c'est notre faute, en fait, s'ils subissent tout ça. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut prendre ses responsabilités et faire tous ces changements, et mettre des moyens aussi. Parce qu'on nous dit tout le temps, oui, mais on manque de moyens, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez d'équipe. Je suis désolée, mais les mouvements et les associations de ce qu'on appelle chasseurs de pédos, comme les enfants d'Argus, qui sont très actifs en France et en Belgique, ils ont 0 euro, 0 moyen. Et ils arrivent à faire arrêter des pédos toutes les semaines ou chaque mois, avec rien d'autre que de la motivation. Donc, j'entends qu'il n'y a pas de moyens, ou en tout cas qu'on place les moyens ailleurs, mais je crois qu'il y a surtout un énorme manque de motivation. Les enfants ne sont pas intéressants, ils n'ont pas de voix électorale, ils ne servent pas à grand-chose. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est d'un point de vue politique, ils ne sont pas intéressants. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument changer, parce que ce sont les adultes de demain, les électeurs de demain. Donc, il faut reconsidérer complètement la place de l'enfant dans notre société. J'entends pas par là faire des enfants rois, j'entends par là faire que ça devienne de futurs citoyens concernés et qui ne sont pas détruits psychologiquement à cause de l'enfance qu'ils ont eue.